Crystal.
A little change in the household name, but ain't too much change. We in the game, yo, but not to be vain. I refrain from salt grains to season up my name. We entertain for a mutual game from close range. Steady aim, my drum at your head to hit the brain. I'm labor ready, roll scholar for the dollar. Work for mines, pay me by the hour.
We're not falling, we take it back to the days of yes, y'all. We're holding on to what's golden.
On the stage, I rage and I'm rolling.
We're not falling. A shot calling, we take it back to the days of yes, y'all. We're holding on to what's golden.
On the stage, I rage and I'm rolling.
Magic, that music, that new music, that music, that new music, that music.
It's the verbal Herman Munster, the word enhancer, sick of phony mobsters controlling the dance floor. I'm in them dark places, catch you when you stark naked. Your heart races as we poke you for your chart spaces. The tart tastes me bringing these hot styles through. Some of you bum a few cheers from shock value. Word power can plow through acres of cornfields. Paragraphs cut like warm steel, perform ill.
We're not falling, we take it back to the days of yes, y'all. We're holding on to what's golden.
On the stage, I rage and I'm rolling.
We're not falling, a shot calling. We take it back to the days of yes, y'all. We're holding on to what's golden.
On the stage, I rage and I'm rolling.
HD, HD, HD.
Le mix.
Yeah. adoré. Et puis ma soeur qui m'appelle et me rappelle, oh yeah, des souvenirs d'enfance passée dans les cages d'escalier, des rêves qui ne veulent plus s'en aller, qui me mettent la haine et me ramènent à cette réalité, oh yeah, yeah, que nous ne voulons plus cautionner. Na 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 na, oh, na 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 na, je ne veux plus en parler, oh yeah, na 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 na. Sont victimes de tout cela. Non, non, je ne peux les laisser faire ça. Non.
Sauf à Paris, nous sommes à Panama City. Une ville comme nous dans ce monde pourri. La police trouve le jour et la nuit. Toutes les après-midi, en train de tourner. Le pression enlevé, c'est pas une banalité.
Écoutez de vive voix du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI.
Bonjour à tous et merci d'écouter RFI, 11h en temps universel. Il est 13h ici à Paris.
RFI Midi, Anne Contenet.
2h30 ensemble, avec nos correspondants, avec nos envoyés spéciaux. Le tour de l'actualité dans le monde. Et à la une ce lundi 25 mai, deux nouveaux malades d'Ebola en Ouganda, plus de 900 cas suspects, 220 morts en République démocratique du Congo, où la ville de Bunia est isolée. Pas de liaison aérienne avec la capitale. Et pour les équipes humanitaires, cette mesure risque surtout de freiner la riposte.
Il faudra savoir que cette communauté-là va se déplacer absolument. Soit par véhicule, soit par moto, soit par vélo, soit à pied. Parce qu'ils ne pourront pas rester encerclés, enfermés. Ils vont se déplacer. Empêcher les vols comme moyen d'empêcher la diffusion du virus ne sera pas efficace. Parce qu'on ne pourra pas absolument les empêcher de sortir. Et il faut plus miser sur des mesures communautaires.
S'appuyer sur les communautés, c'est ce que recommandent les équipes de Riposte, les ONG. Et nous serons en ligne avec l'une des consultantes pour cette Riposte dans Afrique Midi, midi et demi, temps universel.
RFI Midi.
Au sommaire également les mots du pape sur l'intelligence artificielle. Le constat est sans appel, selon Léon XIV. L'IA alimente le fossé entre les exclus et les inclus. Elle est instrumentalisée pour des raisons géopolitiques ou commerciales. Il faut l'empêcher de dominer l'humain, dit le pape. On y revient dans un instant dans le journal et avec notre invité dans un peu plus d'une heure. On parlera aussi dans RFI Midi des négociations entre les États-Unis et l'Iran pour mettre fin au conflit. On est encore loin d'un accord, mais ça avance si l'on en croit les déclarations des uns et des autres. C'est le sujet de la Fabrique du Monde dans une dizaine de minutes. Et puis on parlera aussi de la politique en France, des différentes prises de position concernant l'immigration. Nous sommes à moins d'un an maintenant de l'élection présidentielle. On en parlera aussi avec notre invité, conseiller politique du candidat à la présidentielle, Gabriel Attal, l'ancien député Patrick Vignal. Vous avez le programme. Bienvenue. Et tout de suite donc le journal. Bonjour Gilles Moreau.
Bonjour à tous.
Le pape prend donc position sur l'intelligence artificielle.
Oui, le pape américain Léon XIV a dévoilé ce matin son premier grand texte. Il était très attendu depuis son élection l'an dernier. C'est une encyclique de 130 pages consacrée donc à l'IA, l'intelligence artificielle, présentée comme, je cite, l'un des grands défis de notre génération. Avec nous en studio, Sofia Katsenkova. Bonjour.
Bonjour.
Dans ce texte, le chef de l'Église catholique appelle à reprendre le contrôle d'une technologie qui, dit-il, transforme notre société.
C'est science. cette musique anxiogène que le pape Léon a choisi d'ouvrir la présentation de sa première encyclique. Un choix qui résume bien l'alerte lancée par le souverain pontife. Dans ce texte consacré à l'intelligence artificielle, le pape dit qu'il ne rejette pas le progrès technologique, mais il prévient, sans cadre, l'innovation peut devenir un instrument de domination. Dans le viseur du Vatican, la compétition effrénée que se livrent États et géants du numérique sur fond d'enjeux économiques, géopolitiques et militaires. Et la présence ce matin au Vatican de Christopher Ola, cofondateur d'Anthropic, n'est pas anodine. Cette entreprise américaine est l'une des rares qui plaide pour une IA plus sûre. Le pape veut aussi mettre en lumière les invisibles de cette révolution, les travailleurs de l'ombre, les mineurs, les modérateurs de contenu et les populations vulnérables. Avec ce texte, le pape Léon inscrit son pontificat dans la tradition sociale de l'Église face à une nouvelle révolution industrielle, celle de l'intelligence artificielle.
Sofia Katsenkova, merci. Par ailleurs, dans cette encyclique Magnificat Humanitas, humanité magnifique, le pape évoque le Moyen-Orient et il demande sincèrement pardon pour le retard avec lequel l'Église a condamné, je cite, le fléau de l'esclavage au cours de l'histoire.
Le Moyen-Orient, justement, est peut-être des pas vers un accord entre les États-Unis et l'Iran pour mettre fin à la guerre.
En tout cas, les deux camps envoient des signaux positifs tout en écartant l'idée d'un accord imminent. Téhéran a fait état ce matin de progrès dans les négociations en cours. Côté américain, le secrétaire d'État en visite en Inde a évoqué les chances de conclure un accord solide. Pour Marco Rubio, la réouverture du détroit d'Ormuz est en bonne voie, tout comme la possibilité d'ouvrir des négociations sur le nucléaire iranien. Sur le premier point, sachez que l'Iran fait une concession. Il n'est plus question d'imposer aux navires marchands de vrais péages, mais seulement des frais pour services de navigation. Sur toutes ces questions, les diplomaties pakistanaises et chinoises restent très actives. Le président Xi Jinping a reçu ce matin à Pékin le premier ministre pakistanais, dont le pays est le principal médiateur dans les négociations Iran-États-Unis. Donc en ce début de semaine, un certain optimisme prévaut, avec pour conséquence un peu moins de tension sur le marché du pétrole. Ce matin en Europe, le baril de Brent de la mer du Nord, la référence mondiale, est repassé sous la barre des 100 dollars pour la première fois depuis deux semaines. Les bourses, certes au ralenti en ce jour férié, sont dans le vert et les taux d'emprunt des États sont à la baisse. Tous ces indicateurs montrent que les investisseurs anticipent un possible règlement du conflit. Écoutons sur ce point Aurélien Lux, analyste chez Galilée Asset Management.
On a vraiment ce point bloquant qui est le détroit d'Ormuz, qui est le point névralgique à la fois pour le pétrole et pour l'exportation d'autres matières premières. Et donc finalement, on n'a pas encore pu observer sur les marchés financiers vraiment un véritable rebond. Mais on voit que les marchés, quand même, depuis quelques semaines, ont pris en considération que certes la guerre pouvait durer, mais qu'on arrivait à un potentiel point d'accord. C'est pour ça qu'on a observé une reprise assez forte sur les marchés financiers, notamment aux États-Unis, où on est revenu à des niveaux qui sont records alors que la guerre n'est pas encore conclue. Mais comme on le sait, hein, sur les marchés financiers, on anticipe à 6 mois, à 12 mois. On dit souvent, les marchés achètent souvent la rumeur et vendent la nouvelle. Mais pour moi, il n'y a pas véritablement de point final. Il faudra observer les déclarations de cette semaine. Mais on a un petit rebond aujourd'hui, effectivement, tout en sachant qu'on est en jour férié. Donc il y a moins de flux sur les marchés financiers et un jour férié également aux États-Unis. Donc la bourse est fermée aux États-Unis.
L'analyste financier Aurélien Lux avec Nicolas Feldman.
Plus d'un million de musulmans au rendez-vous cette année.
Oui, le Hajj, le grand pèlerinage traditionnel, commence à la Mecque en Arabie Saoudite. Cette année, ses débuts coïncident avec une possible percée donc dans les négociations États-Unis-Iran. Le Hajj débute aussi par grande chaleur. La ville sainte de l'islam connaît des températures qui pourraient grimper jusqu'à 47 degrés Celsius. C'est un devoir religieux pour tous les fidèles qui en ont les moyens. Mais pour les Palestiniens de Gaza, cet espoir s'est éteint il y a près de 3 ans avec le début de la guerre et les opérations militaires israéliennes. Certains qui avaient avancé des frais pour le Hajj ont tout perdu, comme vous allez l'entendre avec ce reportage à Gaza de Rami Al-Megari et Abla Jonaidi.
À Gaza, comme partout sur la planète, le pèlerinage à la Mecque est le rêve de tout musulman pratiquant. Mohamed At-Tawil avait déjà 70 ans lorsqu'il pensait toucher à son but. En passant par une agence, il prépare le grand voyage et paye même une avance pour s'assurer de passer la frontière et prendre son vol direction l'Arabie Saoudite. Mais le déclenchement de la guerre et la fermeture du point de passage de Rafah ont mis fin brutalement à cet espoir.
J'ai aujourd'hui 73 ans et j'espère que Dieu me permettra de l'accomplir l'année prochaine. On pleure de ne pas avoir pu le faire. En ce qui concerne l'inscription et les frais, je n'ai toujours pas récupéré l'argent que j'avais payé. Ils ne cessent de me promettre de me les rembourser, mais rien n'a encore été fait. Ils m'ont demandé d'ouvrir un nouveau compte bancaire alors que j'en ai déjà un à la Housing Bank.
Coincés cette année encore à Gaza, les habitants de l'enclave sont non seulement privés de pèlerinage, mais aussi de l'Aïd el-Kébir. La fête célébrée cette semaine sera elle aussi à nouveau marquée par les bombardements qui se poursuivent et la restriction persistante par Israël de l'aide humanitaire. Sur le marché local, le prix d'un mouton peut atteindre les 25 000 shekels, soit plus de 7 000 euros.
C'était Abla Junaidi en Russie. Deux personnes tuées ce matin dans les régions de Belgorod et de Bryansk, frontalière de l'Ukraine. L'Ukraine a frappé la Russie en représailles aux bombardements qui ont fait de nombreuses victimes dans la nuit de samedi à dimanche, notamment à Kiev. Au Japon, une vingtaine de personnes blessées dans un centre commercial de luxe du centre de Tokyo. Un homme venait de pulvériser une substance inconnue près d'un distributeur automatique. L'enquête de police a rapidement débuté. La capitale japonaise reste marquée par l'attaque au gaz sarin dans le métro de Tokyo, commise en 1995 par la secte Aum. Elle avait fait 14 morts et plus de 5800 blessés.
Au Pakistan, au moins 24 morts et une cinquantaine de blessés.
Oui, c'est le dernier bilan d'une attaque à l'explosif contre un train transportant des militaires. C'était hier dimanche dans la province du Baloutchistan, dans le sud-ouest du Pakistan, province très instable. L'attentat a été revendiqué par la BLA, l'armée de libération du Baloutchistan, un groupe armé séparatiste. Le premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, a qualifié l'attentat de lâche. Yelena Tomic, vous avez des précisions.
Oui, l'explosion s'est produite, vous l'avez dit, dimanche matin, alors que le train traversait la gare de Chaman-Patak à Quetta, la capitale du Baloutchistan. Parmi les victimes, des militaires et leurs familles qui rentraient chez eux pour l'Aïd. Les militaires sont aux côtés de la police et des fonctionnaires du gouvernement central régulièrement pris pour cible dans les attaques revendiquées par l'armée de libération du Baloutchistan. La BLA accuse le gouvernement fédéral pakistanais d'exploiter les ressources en gaz naturel et les abondantes richesses minières de cette province, la plus pauvre du Pakistan, sans en faire bénéficier la population locale. Dans son insurrection contre l'État pakistanais, le groupe armé Baloutch prend également pour cible les projets économiques en lien avec le CPEC, le corridor Chine-Pakistan, et notamment les intérêts chinois. La sécurité du personnel et des projets chinois a probablement été évoquée ce lundi lors de la rencontre à Pékin que vous avez évoqué tout à l'heure entre le président chinois Xi Jinping et le premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif.
Merci pour toutes ces précisions, c'était Yelena Tomic. En bref, avant de conclure, malgré la trêve en cours, l'armée israélienne a demandé ce matin l'évacuation de 10 villages dans le sud du Liban, prévision d'attaque contre le Hezbollah. Dans le même temps, et alors que les pourparlers entre les deux pays doivent reprendre cette semaine à Washington, eh bien le président libanais a défendu sa décision de négocier avec Israël et réaffirmé que son exigence d'un retrait total du sud du Liban n'était pas négociable. La France, touchée comme d'autres par une vague de chaleur exceptionnelle pour la saison. Selon Météo France, elle prendra fin seulement en fin de semaine. Un dôme atmosphérique empêche la chaleur de s'échapper, bloque la formation de nuages, ce qui entraîne des températures exceptionnellement élevées actuellement à Paris et ailleurs en France. Le tennis à Roland-Garros aujourd'hui, suite du premier tour avec parmi les premiers résultats les qualifications de l'américain Alex Mikkelsen et côté féminin de la polonaise Maja Szalińska ainsi que de la Suissesse Jill Teichmann. Enfin, une nouvelle langue s'ajoute à la production de France Média Monde. C'est aujourd'hui qu'est lancée la rédaction arménienne de RFI ici à Paris, avec un objectif notamment faire entendre la voix de la jeunesse. La production sera exclusivement en arménien oriental, qui devient la 18e langue de notre offre. Très bonne journée sur notre antenne tout de suite, en compagnie d'Anne Cantner.
Et en français. À tout à l'heure, Gilles Moreau. Et la fabrique du monde, pour débuter, Guillaume Nodin, vous revenez sur l'avenir de la guerre des États-Unis contre l'Iran. Nouvelle rencontre diplomatique aujourd'hui, on l'a évoqué dans le journal. Le président chinois reçoit le premier ministre pakistanais, qui est le pays médiateur, avec le puissant chef de l'armée du Pakistan, autre intermédiaire. Alors, on a encore un peu de mal à y voir clair, mais les discussions semblent s'intensifier et même avancer.
Oui, plusieurs sources officielles laissent entendre que les points de vue se rapprochent entre les États-Unis et l'Iran. Des déclarations venant de Washington, de Téhéran et des médiateurs pakistanais ainsi que de pays de la région vont toutes dans le même sens. À trois reprises ce week-end, Marco Rubio a dit espérer pouvoir annoncer une bonne nouvelle dans un délai de quelques heures. Et puis hier soir, Donald Trump tempérait et parlait plutôt lui en jour. Et à Téhéran, on explique ce matin que ce n'est pas imminent. Mais aussi bien les États-Unis États-Unis que l'Iran parlent vraiment de la négociation d'un protocole d'accord.
Et qu'est-ce qu'on en sait pour l'instant de cet accord ?
Ce que différents médias internationaux et notamment américains croient savoir, le Financial Times, le New York Times, CNN et Axios citent des responsables américains qui affirment qu'un accord a été trouvé pour la réouverture du détroit d'Ormuz, actuellement bloqué de fait par l'Iran. L'Iran pourrait aussi vendre du pétrole à l'étranger. Cela impliquerait donc aussi la fin du blocus des ports iraniens par les États-Unis. C'est le plus urgent et le plus attendu par les pays de la région et à vrai dire par l'ensemble des pays du monde. Le blocage du détroit par lequel passaient 20% des hydrocarbures mondiaux avant la guerre a entraîné une hausse des prix des carburants et une inflation généralisée.
Et puis il y a l'autre point clé, la question du nucléaire iranien.
Alors là, il est question d'une négociation séparée qui serait menée dans les 60 jours suivant la réouverture du détroit. Il va donc falloir discuter des 450 kilos d'uranium enrichi à 60% détenu par le régime iranien. L'Iran tient à son programme nucléaire civil, mais la partie américano-israélienne ne veut absolument pas que le pays qui maîtrise la technologie des missiles balistiques, qui ne sont pas évoqués dans la presse, s'équipe en plus de l'arme atomique. Hier soir, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou disait avoir convenu avec Donald Trump que la menace nucléaire devrait être entièrement éliminée par un accord final. Final étant ici un mot important puisqu'il accrédite à la fois la thèse d'un premier accord et d'une négociation en deux temps.
Là, le Premier ministre israélien fait de la politique.
Oui, il communique avec la partie de son électorat et ses alliés qui veulent toujours la fin du régime iranien, mais de la politique et de la diplomatie, tout le monde en fait. Son adversaire pro-iranien du Hezbollah qui souhaite que tout accord soit global et inclut donc le Liban où les frappes israéliennes ont fait plus de 3000 morts et continuent à tuer. Et évidemment Donald Trump qui affirme contre toute évidence et contre toutes ses actions depuis 2 mois que le temps joue pour lui. Lui aussi doit convaincre son propre camp. Si une grande partie des électeurs MAGA sont impatients que tout cela se termine, il reste encore quelques faucons à Washington pour dire qu'il faut continuer jusqu'à la soumission totale du régime iranien.
Guillaume Nodin pour La Fabrique du Monde. À demain.
RFI. L'Europe à midi.
L'actualité en Europe, c'est la guerre en Ukraine qui se poursuit avec aujourd'hui des frappes ukrainiennes dans les régions russes frontalières de Belgorod et de Bryansk. Selon les autorités locales, ces bombardements ont fait 2 morts après une attaque il y a quelques jours contre le bâtiment d'un lycée dans la région de Louhansk, occupée et annexée par les forces russes. Quelques heures après des bombardements très intenses de la part de la Russie dans la nuit de samedi à dimanche contre toute l'Ukraine, avec ce qui est décrit comme l'une des attaques les plus violentes, notamment contre les hôpitaux. We'll be right back.
I'm just feeling celebration tonight. Celebrate, don't wait too late. No, we don't stop. You can't stop. We're gonna celebrate one more time. One more time. One more time. A celebration. You know we're gonna do it right tonight. Hey, just feel it. Music's got me feeling the need. Need. Yeah. Come on. Alright. We're gonna celebrate. One more time. Celebrate and dance so free. Music's got me feeling so free. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate.
Merci la carotte.
Il faut se creuser la tête pour sauver la planète.
Alors cette semaine, nous restons en Gascogne et je vous emmène découvrir une association qui s'appelle Savez Climat. Quand j'ai vu son site, j'ai été assez impressionné car c'est ce genre d'association trop rare qui prennent les problèmes dans leur globalité et qui essaient de trouver des solutions locales avec les gens. C'est un petit peu le cas de Savez Climat donc que va nous présenter Sophie. Bonjour Sophie.
Bonjour Nicolas.
Alors Sophie, Savez Climat, c'est quoi? Ça part de quoi? Vous partez d'un constat, le climat, je suppose?
Ben, on part de, ouais, on est face à un bouleversement climatique, on est face à une ribambelle de mauvaises nouvelles qui s'accentue de jour en jour.